Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous retrouvons notre invité Martin Hirsch. Vous êtes directeur général de la PHP. Vous publiez L'Hôpital à cœur ouvert. Et avant d'évoquer le cœur de l'hôpital, on va revenir quand même à quelques questions politiques, puisque vous avez occupé des fonctions politiques. Vous avez été haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse. Vous êtes à l'origine du revenu de solidarité active et du service civique. Et vous avez été finalement l'un des premiers à évoquer le dépassement des clivages. Est-ce qu'Emmanuel Macron suit une politique conforme finalement à votre activité au sein d'un gouvernement qui n'avait pas nécessairement les mêmes opinions politiques que les vôtres sous la présidence de Nicolas Sarkozy?
Alors je vais vous répondre à cette question, mais un mot puisque vous ne me demandez pas votre avis sur la pêche électrique. Si on me demandait mon avis, qu'on ne me demande pas.
On a beaucoup parlé de pêche électrique ce matin.
L'électrocution de masse n'est pas un moyen traditionnel de pêche. Je pense que voilà.
Vous avez donc si vous allez au
musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye, vous trouverez des petits harpons. Vous ne trouverez pas des gros tasers. Et imaginez Hemingway faire l'homme à la mer avec un énorme taser, ça marcherait pas.
Effectivement, on en a beaucoup parlé ce matin. Et donc, à chaque fois, vous sembliez en désaccord avec cette méthode de pêche, Martin Hirsch.
Est-ce que le type qui a été dans l'ouverture il y a 10 ans considère que de temps en temps rebattre les cartes du jeu politique traditionnel fait du bien et aère les fenêtres? Oui, je trouve que c'est pas mal. Il y a une sorte de... Alors ça peut être dangereux, mais il y a une sorte de resetage idéologique.
Resetage idéologique. Oui, vous allez vous faire disputer pour l'anglais. Oui, on reset.
Non, ça n'existe pas en anglais, resetage. Reset, vous le trouverez en anglais, mais resetage, c'est
un
néologisme français.
Écoutez, je laisse les auditeurs réagir, Martin.
Mais permet effectivement de dépasser un certain nombre de postures. Moi, je le vois beaucoup dans mon secteur de la santé, sur lequel avoir une lecture de droite ou une lecture de gauche et je pense, pas complètement suffisante pour voir les enjeux.
Pas suffisante, mais existante. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Une lecture de droite de l'hôpital, ça existe. Une lecture de gauche aussi, bien sûr.
Oui, mais ça ne suffit pas, si vous voulez. Une fois qu'on a fait les deux choses caricaturales, qui est le côté droite qu'on a vu chez Fillon, disant on va privatiser le truc, ou le côté gauche, il faut rien bouger. Je ne sais pas si cette phrase va être considérée comme macronienne, mais ce que je dis, c'est préserver n'est pas conserver. Je vais m'expliquer, parce que je vois. L'hôpital public, il faut le préserver comme un lieu d'égalité des soins. Est-ce que pour préserver cet acquis qui est absolument fondamental et qui est menacé, il faut du coup conserver l'hôpital tel qu'il est? Je ne pense pas. Je pense que le conserver exactement tel qu'il est, c'est de risquer...
On va reparler de l'hôpital promis, Martin Hirsch, puisque vous avez l'hôpital à cœur.
J'essaie d'illustrer les enjeux politiques par ce que je connais.
Au-delà de ça, parce que... Donc, appuyer sur le bouton reset pour remettre à zéro les logiciels politiques, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais et en même temps, l'idée selon laquelle, finalement, il y aurait des solutions à trouver en dépassant les clivages idéologiques et pas seulement en ouvrant les fenêtres, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est une idée qui peut vous séduire? Est-ce que, par exemple, vous pourriez vous engager dans une démarche de ce type?
Mais parce que j'ai fait un autre choix. Je suis contre le fait de faire d'être partout en même temps à la fois, si je puis dire. Donc le choix de gouverner un ensemble hospitalier public ne me conduit pas à avoir un engagement politique. À ce sens-là, ça ne me désintéresse pas du sujet, mais ça me conduit à ne pas avoir à exprimer d'opinion politique, vous le comprendrez tout à fait.
Alors je vais le dire autrement, je vais faire quand même une dernière tentative sous le regard.
J'adore ces sujets, mais...
Je vais quand même essayer de savoir si vous considérez que vous êtes un peu macronien avant l'heure, avant Macron, déjà vous l'étiez.
Si vous regardez un de mes précédents livres qui s'appelait « Secret de fabrication », je me qualifie comme porteur à l'époque d'une politique hermaphrodite, c'est-à-dire pas du tout asexuée ni de droite ni de gauche, mais hermaphrodite, c'est-à-dire doublement sexuée et de droite et de gauche. Alors ensuite, je vous laisse dire si c'est macroniste, macronien ou
Frédéric Saïs a un avis sur cette politique hermaphrodite.
2010.
Là, on l'a pas vu venir sur ce terme-là. Oui, après le recettage, l'hermaphroditisme, ça peut correspondre effectivement à ce gouvernement qui est doublement sexué pour l'instant et qui se rassemble dans un sexe, un troisième sexe qui est le macronisme. Voilà.
Et quelle transition avec le harcèlement sexuel sur lequel on va arriver dans un instant.
Bon, je sens que vous avez envie de faire ouf et de passer à des sujets qui concernent l'hôpital, qui ne sont pas néanmoins d'ailleurs des sujets plus faciles. Effectivement, dans la libération de la parole qui a eu lieu, on a l'impression que l'hôpital est aux premières lignes, le lieu donc où de nombreuses plaintes sont faites jour, avec également une culture qui semble être finalement bien un peu en phase avec la période actuelle, Martin Hirsch.
Attendez, en première ligne, rendons au César ce qui appartient au César. Hein, c'est le cinéma qui a commencé, c'est pas l'hôpital. En revanche, est-ce que cette prise de conscience généralisée, milieu par milieu, qu'on ne peut pas dire qu'un milieu professionnel est un milieu dans lequel les rapports de domination aboutissent à des rapports de harcèlement et de maîtrise sexuelle de ceux qui ont le pouvoir ou l'argent par rapport aux autres, est-ce que ça concerne l'hôpital? La réponse est clairement oui. Est-ce que oui ou non l'hôpital a toléré des types de comportements qui n'ont pas lieu d'être? La réponse est clairement oui. Est-ce que la maturité est suffisante face à l'électrochoc, pardon de cette métaphore, de ce qui s'est libéré au cours des quelques mois pour tourner la page? La réponse est oui. Alors ensuite, on se perd de temps en temps sur les polémiques, sur les fresques, etc.
Qui témoignent d'une culture, puisque ces polémiques, juste pour les évoquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas la question, donc des fresques de salles de garde qui sont porteuses d'un certain nombre de stéréotypes sexistes et qui témoignent là aussi de pratiques dont certains voudraient sauvegarder l'esprit et dont d'autres considèrent qu'elles sont incompatibles.
Et
là
vous
aussi.
Connaissez ma doctrine, celle que j'ai affichée, qui n'a rien de sous le camp, qui est de dire si on considère ces fresques comme des témoignages d'une époque révolue, elles sont bienvenues. Et certaines sont assez jolies artistiquement d'ailleurs. Si on les considère comme effectivement une manière d'exprimer le maintien d'une relation entre les hommes et les femmes, elles n'ont pas lieu d'être. C'est aussi simple que ça. Et je pense que les gens sont assez mûrs pour faire la part des deux choses et pour pouvoir vivre sous une fresque obscène sans avoir des comportements obscènes.
On continue avec les dossiers qui aujourd'hui sont évoqués et sont au cœur de ce que pourrait être une nouvelle politique hospitalière, avec la situation dans les hôpitaux psychiatriques. Situation qui a été soulevée par une députée, Barbara Pompili. On l'écoute, c'était au journal de France 3.
Aujourd'hui, en faisant des économies sur l'hôpital psychiatrique et sur la psychiatrie en général, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on ne soigne plus. Parce que pour soigner, il faut des personnes. On ne peut pas simplement donner des médicaments. Or, aujourd'hui, ce qui se passe à l'hôpital Pinel, c'est qu'il y a tellement peu de personnel qu'on en est réduit à faire de la garderie. Et on a des personnes qui sont dans de grandes détresses, qui sont malades et qui soit sont condamnées à vivre une vie abominable, indigne, soit qui ressortent, mais sans être guéries ou sans en tout cas avoir progressé. Et ça veut dire qu'on a des personnes qui sortent et qui sont livrées à elles-mêmes et on voit ce que ça peut entraîner pour elles ou pour d'autres.
La voix de la députée Barbara Pompili, votre opinion à ce sujet sur la situation des hôpitaux psychiatriques, Martin Hirsch?
Alors, je ne connais pas l'hôpital Pinel, je connais un peu les hôpitaux de la paix qui font de la psychiatrie, c'est pas des garderies. Peut-être que Barbara Pompili, je l'inviterai à venir dans un de nos hôpitaux. Il peut y avoir des manques de personnel comme dans d'autres disciplines, mais ça n'est pas...
Les psychiatres se plaignent beaucoup, y compris des psychiatres parisiens.
Oui, ils se plaignent, mais ils font aussi des choses. Et quand on regarde, il n'y a pas eu de plan de massacre de la psychiatrie ces dernières années. Qu'en revanche, il y a une prise de conscience que on n'a pas été suffisamment bon dans la prise en charge de la maladie mentale, qu'un certain nombre de choses sont en train d'évoluer sur la conception même de la maladie mentale et que ça doit avoir l'influence non seulement sur la psychiatrie, mais sur les liens entre psychiatrie, maladie somatique, etc. Ça, c'est certain. Donc, la psychiatrie doit évoluer. Il ne faut surtout pas sacrifier la psychiatrie. Nous, on essaye d'avoir des projets très importants autour mise en réseau des connaissances psychiatriques, des points de référence. Je veux dire, je trouve qu'on est mauvais en prévention du suicide. Je trouve qu'on est mauvais dans le suivi à long terme d'un certain nombre de patients. Voilà, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et si les parlementaires peuvent nous aider à soutenir la psychiatrie, ils sont les bienvenus.
Mais bien souvent, le secteur de la psychiatrie est un secteur laissé pour compte lorsqu'on évoque le budget de la santé et la manière dont une pression peut être exercée. On a parlé, par exemple, des urgences. Bon, là, on voit bien dans quelle mesure on est souvent confronté aux urgences. La psychiatrie, c'est malheureusement souvent un baromètre de l'état d'un système de santé.
D'autres l'ont dit avant nous. Mais si vous voulez, sur les moyens, justement, ce qui est... les hôpitaux psychiatriques n'ont pas été soumis au même régime que les hôpitaux de soins aigus. Ils ont gardé un système de financement forfaitaire. D'un côté, ça les a préservés des coupes dans ces budgets pendant assez longtemps. Moi, je le vois parce que j'ai les deux systèmes dans nos hôpitaux. Et de l'autre, ce ne leur a pas permis à celles et ceux qui sont performants de voir leurs moyens augmenter parce que la réactivité augmentait. Donc, vous avez des tensions. Ils ont le même mode de financement que l'hôpital avait il y a 30 ans et qui s'appelle budget global. Et comme aujourd'hui, il y a des réflexions sur le faire évoluer, ça suscite toute une série de craintes qu'on comprend. Mais c'est hyper difficile, la question de la gestion des hôpitaux psychiatriques et de savoir quelle est la bonne somme qu'on alloue à la psychiatrie.
Est-ce qu'il faudrait plus d'argent, puisque finalement la question est assez simple, est-ce qu'il faudrait plus d'argent pour ce secteur et pour les autres secteurs de l'hôpital aujourd'hui, Martin Hirsch ?
Désolé, mais la question n'est jamais aussi simple. C'est-à-dire que il y a plein d'endroits, quoi, plus d'argent dans un système pas assez organisé, ça sert à rien. Pas assez d'argent dans un système pas assez organisé, ça sert à rien non plus. Je veux dire, le plus d'argent ne peut aller qu'avec aussi plus de direction, plus de stratégie, plus de vision. Je dis pas ça pour critiquer la psychiatrie, mais le plus d'argent en soi, c'est un peu court.
Alors, si plus d'argent en soi, c'est un peu court, comment faire aujourd'hui avec une équation budgétaire complexe ? Il y avait des réponses de droite qui ont été exposées pendant la période de l'élection présidentielle. Vous témoignez de votre scepticisme à l'égard de ces solutions dans le livre que vous publiez, L'Hôpital à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Mais je sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le type de question que je soulève dans le livre... C'est, oui, il faut contenir les dépenses de santé, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour que les nouvelles innovations arrivent. Mais moi, je me dis, face à un certain malaise hospitalier que l'on voit, et que l'on voit notamment dans les hôpitaux parisiens, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas lié à un manque de reconnaissance, dans lequel il y a la reconnaissance symbolique, j'essaye de voir quelle est la part de reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire ce concept de reconnaissance, mais par ailleurs de reconnaissance monétaire. J'ai été troublé de voir les études de l'OCDE qui montraient qu'on est un des trois seuls pays de l'OCDE. L'OCDE, c'est tous les pays riches. Un des trois seuls pays de l'OCDE dans lequel le salaire moyen des infirmiers publics est inférieur au salaire moyen du pays. Mmh. Un des trois seuls avec la République slovaque et la Hongrie. Mmh. Je pense qu'il y a un petit sujet là-dessus. Donc je pense... Par exemple, que si on veut redonner son âme au système, il faut à la fois faire en sorte que les infirmiers puissent exercer davantage de responsabilités qu'ils n'en exercent aujourd'hui, plutôt que d'avoir ce qui les limite dans leur décret de compétence qui a été déterminé il y a 20 ans, qu'il puisse y avoir des choses modernes, des infirmiers de pratique avancée, et que pour soi, ils soient payés un peu plus, enfin, qu'on nous laisse ce type de souplesse plutôt que l'uniformité qui tue et qui ennuie.
Martin Hirsch, il y a une question qui est une question un peu technique, mais qui est malgré tout...
Je vais m'y essayer.
Qui est malgré tout au cœur. Pour vous, elle sera peu technique. Pour nous, elle le sera beaucoup plus, mais vous allez faire œuvre de pédagogue. C'est la question des tarifications, donc oui. Des actes de soins au sein de l'hôpital, avec un système qui s'appelle le T2A, avec donc là aussi une règle qui est fixée, vous allez d'ailleurs l'exposer, et puis un certain nombre de craintes, parce que on se dit finalement que, vous avez dit tout à l'heure que l'hôpital n'était pas une entreprise, certes, mais c'est un centre de coûts, et comme tout centre de coûts, eh bien, on se dit que le budget peut en quelque sorte diriger ce qui va être fait de notre santé. Alors, rappelez-nous tout d'abord en quoi consiste ce nouveau mécanisme.
C'est un nouveau qui date d'il y a au moins 10 ans déjà, hein, et c'est pas quelque chose qui vient d'être introduit. Ça consiste à dire que si vous venez dans un hôpital pour un adénome de la prostate et que pour vous enlever la prostate, l'hôpital touchera 2000 et quelques euros. Si vous venez pour vous faire greffer un foie, l'hôpital touchera 92 000 euros. Donc, à chaque pathologie, chaque catégorie de patients, un tarif, on est payé en fonction de cela. Bien évidemment, tous ces tarifs ne sont pas ajustés précises. La dépense qu'on aura engagée en heures d'infirmier, etc., ne fera pas exactement 2300 euros ou 92 000 euros. Donc, il y a des choses qui peuvent être plus rentables, je mets des guillemets, ce que les auditeurs ne voient pas, que d'autres. Et donc, il peut y avoir un risque, et ce risque existe, que les hôpitaux se spécialisent dans ce pourquoi ils savent maîtriser les coûts et ce pourquoi ils touchent les forfaits qui sont peut-être les plus avantageux. Et ça n'est pas cohérent avec la logique de santé publique. Et puis ensuite, il y a la logique du hamster dans son rouleau, c'est-à-dire que si on perçoit moins de forfaits, on a moins d'argent pour pouvoir payer les infirmières à la fin du mois, et donc il y a une sorte de course à l'activité. Cette course à l'activité est somme toute mesurée, hein, on n'augmente pas de 10% l'activité par an. Hein. Et donc, ce système est critiqué. Il est critiqué à juste titre. Mais ce que j'essaye de dire, c'est malheureusement,
c'est qu'il a des effets qui est critiquable, pervers.
Voilà, c'est que tout système de financement de l'hôpital a des effets pervers. Il n'y a aucun système parfait, ça n'existe pas. En revanche, aujourd'hui, il y a un effet, je pense, encore plus pervers que les autres dans le système actuel, c'est qu'il conduit à un cloisonnement entre ce qui finance l'hôpital d'un côté, ce qui finance la médecine de ville de l'autre, alors que ce qui nous arrive devant nous, ce sont des tas de malades chroniques qui ne vont pas être pris en charge, soit à l'hôpital, soit en ville, mais en même temps. Quoi, pas exactement en même temps, mais sur une période d'une maladie chronique qui va durer 20 ans,
par exemple.
De temps en temps. Pour un diabète que vous avez, en plus d'avoir une insuffisance cardiaque, la plupart du temps, vous irez voir un médecin de ville et puis de temps en temps, vous aurez besoin d'aller passer 48 heures à l'hôpital. S'il y a une sorte de conflit monétaire ou de concurrence entre ceux qui prennent en ville et ceux qui prennent à l'hôpital, vous n'aurez pas la meilleure prise en charge. Si en revanche, l'ensemble de ces acteurs se disent « nous sommes tous au chevet de ce patient ou à la ce patient et on se débrouille pour répartir les sous en fonction de nos interventions les plus pertinentes », à ce moment-là, ça ira mieux. Et cette évolution-là est souhaitable, je pense qu'elle se fera, il vaudrait mieux qu'elle se fasse vite, parce que sinon, on fait des serrages de vis qui, eux, ne sont pas pertinents.
Des serrages de vis, on comprend bien, mais on se dit finalement que, comme il y a aujourd'hui un système de tarification, comme il y a aussi des modes, pardonnez-moi l'expression, à l'hôpital, mais on entend dire, nous ne sommes pas spécialistes, les patients entendent dire, par exemple, que la pose de tel ou tel appareil est aujourd'hui finalement largement débattue, que tel dépistage ne serait pas aussi utile que cela. On se dit finalement qu'avec un système de coûts du type de celui-ci, eh bien finalement, on va inciter les hôpitaux à faire certains actes qui peuvent être bons pour leur gestion, mais mauvais pour la santé des patients. Et c'est finalement cela, l'inquiétude qui se fait jour.
Bien sûr. Alors, si je peux rassurer à nouveau, il y a une chose formidable à l'hôpital public, en tout cas que moi je vois dans les hôpitaux publics, qui est un truc qui s'appelle l'éthique professionnelle et l'éthique médicale, qui fait qu'on peut vous rassurer. Moi, je ne connais pas de médecins qui vont, du coup, vous imposez une intervention non utile sous prétexte que ça pourrait rapporter quelque chose. Donc, mais cette éthique est effectivement en tension avec ces contraintes et cette tension, elle est effectivement fatigante à peu près pour tout le monde. Ah, donc, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer le mode de financement, mais pas en espérant un mode de financement miraculeux. Tant qu'il y a des contraintes financières, je crains qu'il y ait des contraintes financières assez longtemps.
Vous avez d'ailleurs élaboré un manifeste des valeurs pour l'hôpital Martin.
Alors, je ne l'ai pas élaboré tout seul, on l'a élaboré collectivement, oui. Y a des boîtes privées qui proclament leurs valeurs dans des textes. Et moi, je me suis rendu compte que l'AP, grand service public, ne s'était jamais donné la peine de faire cet exercice, de dire quelles sont les valeurs. Et je trouve important d'avoir un texte de référence, pas simplement des normes, pas simplement des circulaires budgétaires, mais un texte de référence immatériel par des valeurs. Et je suis très heureux que 3000 personnes aient contribué à définir des valeurs dans lesquelles on trouve bien sûr l'égalité d'accès aux soins, mais le travail en équipe et des choses pas complètement triviales.
Qui a réalisé l'égalité d'accès aux soins ?
elle n'est pas complète, l'égalité d'accès aux soins. C'est ce que je dis quand il y a besoin. Je raconte dans le livre, quand je reçois 2-3 messages par jour pour me dire « S'il vous plaît, aidez-moi à trouver un rendez-vous d'IRM dans les 4 semaines ou dans les 3 semaines et non pas dans les 3 mois », ça montre qu'il y a une inégalité d'accès aux soins. Et donc, bah, toute la question de l'organisation, de notre propre organisation, et de renouer avec la vraie égalité d'accès aux soins.
Ça, c'est la question qui porte sur le système de santé, sur les patients. Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait également un manifeste des patients? Est-ce qu'il faudrait les responsabiliser plus encore? Est-ce que là, il y aurait aussi des efforts que nous devrions faire, nous, patients, Martin Hirsch?
Quand on a écrit notre manifeste des valeurs, j'ai évoqué cette question avec Marie Citrini, qui est la représentante des patients à l'AP. En lui disant, je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire, je ne vais pas demander aux patients de contribuer au manifeste des valeurs de la paix, puisque c'est les valeurs de ceux qui y travaillent. Et elle a été d'abord choquée, puis ensuite elle a tout à fait compris. Et je lui dis, en revanche, rien n'interdit les patients de définir leurs propres valeurs. Bien sûr, quoi, je pense que chacun doit définir ses valeurs et qu'ensuite c'est à l'interface des valeurs des uns et des autres qu'il se passe des choses absolument passionnantes.
Mais est-ce que vous trouvez que nous, les Français, nous sommes habitués finalement à trop dépenser alors que le système est sous tension budgétaire ?
Pas à trop dépenser, mais à être parfois effectivement... paradoxaux dans nos attentes. Quoi. Le truc d'Alphonse Allais, qu'on connaît bien, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Nous sommes tous des petits Alphonse Allais en puissance.
Et pour le système médical, est-ce que vous trouvez qu'on demande trop au système de la sécurité sociale et qu'on ne souhaite pas le financer ?
Je ne pense pas qu'on demande trop au système de sécurité sociale. Je pense, en revanche, que... on a devant nous un débat complexe sur comment est-ce qu'on peut agir, avoir des incitations sur le comportement et sur la prévention, sans qu'il s'agisse d'incitations à l'américaine, où ça se traduit par des primes d'assurance. Oublions la sélection par le risque, par les assurances, mais ne nous privons pas d'avoir des choses qui incitent à avoir des comportements préventifs. Je trouve plus intéressant de travailler sur le comportement alimentaire que de développer des multiples centres de chirurgie bariatrique.
Est-ce que vous pensez, Martin Hirsch, que l'on va pouvoir faire l'économie d'une grande réforme de notre système de santé ? Est-ce qu'à coup d'ajustement, on va réussir à rétablir l'équilibre des comptes ? Ou bien il faudrait imposer une véritable révolution à l'hôpital, à la totalité du système ?
Non, je ne pense pas que le système ait besoin de révolution. Je pense qu'il a besoin qu'on lui laisse des marges de manœuvre, de souplesse. Je ne pense pas que ce que nous avons besoin de faire à l'AP, forcément, il est la même chose que ce qu'on a besoin de faire dans d'autres hôpitaux. Ce que je dis, c'est faites confiance un peu aux acteurs, contractualisez avec eux pour être sûr que ça ne déborde pas, mais ensuite qu'on puisse expérimenter d'autres modes de souplesse. Alors, il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte dans la loi de financement de la sécurité sociale avec une petite lueur. Ça s'appelle l'article 35 qui dit qu'on peut expérimenter des choses au sein d'un système dont la complexité est quand même folle.
Mais je vous évoquiez il y a quelques mois, le 14 janvier, Martin Hirsch, la possibilité de réaliser un référendum sur le système de santé.
Le 14 janvier l'année dernière, où j'avais écrit une tribune dans Le Monde avec Didier Tabuteau en disant « Après tout, a-t-on besoin de superposer les deux étages, l'assurance maladie obligatoire et 550 mutuelles d'assurance complémentaire ? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à faire un système unifié ? Et comme c'est compliqué, parce qu'il y a des tas d'intérêts en présence, est-ce que ça n'est pas un sujet de grands débats là-dessus. Alors, il n'est pas d'actualité aujourd'hui.
C'était avant la campagne électorale présidentielle. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que l'élection présidentielle a rendu superflu ? Autrement dit, est-ce qu'Emmanuel Macron a tranché à la place de...
J'ai bien conscience que ça n'est pas dans le programme actuel.
Merci Martin Hirsch de nous avoir exposé ce que vous pensiez bon pour l'hôpital. L'hôpital à cœur ouvert aux éditions Stock.